Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Une demi-heure très rock'n'roll, c'est ce que nous vous proposons ce matin jusqu'à 9h30. Bonjour Guillaume Canet.
Bonjour.
Rock'n'roll, c'est donc le titre de votre cinquième film. En tant que réalisateur, il sort au cinéma mercredi prochain. Une histoire qui parle de cinéma, de notoriété, du temps qui passe, dans laquelle vous jouez votre propre rôle aux côtés de vos proches et de vos amis. Nous allons longuement en parler avec Stéphane Boutsock, qui a notamment rencontré une certaine Marion Cotillard. Oui. Je précise que nous ferons gagner à nos auditeurs des places de cinéma pour aller découvrir Rock'n'roll en salle, ainsi que des bandes original du film. Rendez-vous également avec Charlotte Arrigoni et ses dernières infos culture. Guillaume Canet, le ton de votre film est clairement celui de la comédie, même si elle est parfois sombre et cruelle. On va en parler, mais est-ce que vous aviez cette volonté de revenir à cette tonalité après Blood Ties, votre précédent film de réalisateur, en 2013, qui était lui clairement un polar assez violent et désespéré?
Alors, plusieurs choses. D'abord, je précise que c'est pas que un film sur le cinéma. D'ailleurs, pour moi, pas du tout, en fait. C'est un film qui s'adresse vraiment au grand public. C'est-à-dire qu'on passe par le prisme de ce couple, mais ça concerne tout le monde, en fait. L'idée, c'était vraiment de montrer des choses que je vois dans notre époque qui nous entourent sur la manière dont aujourd'hui on rentre de plus en plus dans une norme. C'est parti d'une interview en fait avec cette journaliste qui m'a dit que j'étais pas très rock, et je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut dire être rock aujourd'hui et à quoi on s'attache, c'est-à-dire aux apparences, comment on imagine des gens, on a une image d'eux, l'image que l'on peut avoir de soi-même aussi, mais ça que l'on soit acteur ou pas. Et après est venu se greffer à ça plein de thèmes comme le jeunisme, comme cette volonté de rentrer dans cette norme, de ressembler en fait à quelqu'un, et que finalement tout ça c'était de montrer que être rock aujourd'hui c'est plutôt d'essayer d'être qui on a envie d'être et d'être libre d'être qui on a envie d'être.
Vous nous dites que ce couple de cinéma est en fait nous aussi.
Bah évidemment, et c'était aussi.
C'est d'abord un couple.
Pardon, excusez-moi.
Je vous en prie.
Mais c'est pour ça que j'ai voulu insister aussi sur le quotidien, sur la vie notre vie. Alors évidemment, ça parle de cinéma, parce qu'évidemment, on parle des coulisses.
J'espère bien.
Mais c'était pas que cinéma. Donc je voulais préciser là-dessus. Et pour
le retour à la comédie.
Alors le retour à la comédie, tout à fait. C'est à la suite de.
Merci
Blood Ties.
De suivre cette interview.
Mais j'essaye.
à la suite de cette sortie en fait de Blood Ties, c'est vrai que j'ai eu une période un peu compliqué de ne pas accepter forcément la manière dont le film avait été accueilli. Ça avait été assez douloureux pour moi parce que c'est un film que j'aimais beaucoup. Et j'avais décidé tout arrêter, d'arrêter le cinéma. Et en fait, chemin faisant, pendant un an à faire complètement autre chose, bah j'ai retrouvé l'envie petit à petit. Mais c'était une envie qui a été un peu la même que sur mon idole, mon premier film. Et du coup, je pense que c'est pour ça, après tout ce temps-là, que j'ai retrouvé... Je me suis nourri plein d'autres choses et je voulais pas devenir aigri, devenir en colère. Et puis là, ça m'a apporté des choses et je me suis retrouvé plus libre de faire ce film comme ça, de manière complètement insouciante et légère. Et on s'est vendu la gueule. Voilà.
Alors l'insouciance et la légèreté. Stéphane Boutsock, vous me disiez que Rock'n'Roll était un film gonflé. Alors expliquez-nous pourquoi.
Bah, d'abord parce que cette plongée en surface dans les coulisses du quotidien de star est un genre qu'on pratique assez peu chez nous. Et puis après, oui, c'est gonflé parce que Guillaume en parlait. Mettre en scène un Guillaume Canet perturbé par le doute, la quarantaine venue, ce qui peut en effet tous nous concerner quand arrive à cet âge-là, avec cette question existentielle. Et si j'étais plus dans le coup, c'est une interrogation existentielle. Alors justement, on écoute un extrait, c'est la fameuse interview à laquelle Guillaume faisait référence.
Vous êtes nommé au César, à côté d'acteurs, de jeunes acteurs comme Gaspard Ulliel, Vincent Lacoste, Pierre Ninet, qui sont un peu ce que vous étiez à l'époque. Vous en pensez quoi de ce passage de relais ?
Je vois pas trop la différence entre eux et moi, quoi, donc...
Bah si, enfin quand même, aujourd'hui vous êtes dans une autre énergie.
Non mais ce qu'elle veut dire, c'est que même si t'as jamais eu cette image sexe, drogue et rock'n'roll, bah, c'est encore moins le cas aujourd'hui.
Je comprends pas trop comment vous voyez là, parce que côté rock, vous vous trompez. Hein, parce que moi, je suis assez rock'n'roll hein, quand même. Enfin, je veux dire, je joue de la guitare électrique depuis que je suis môme. La drogue, j'ai tout essayé. Après, c'est vrai que j'ai trouvé dans le sport, et notamment l'équitation, une drogue qui me satisfait plus. Quelque part, on peut dire que le cheval m'a sorti de la cave.
Alors, j'aime beaucoup. Oui. Le Guillaume Canet du film va alors se lancer dans une course au jeunisme qui va le mettre plus en danger qu'il l'imagine, jusqu'à basculer dans l'excès et les excès. On verra ça dans la deuxième partie du film. D'une farce extrêmement drôle, dans la première partie, on bifurque après dans une ambiance qui est un peu plus sombre, dont il faut rien dire. C'est tout l'intérêt de rock'n'roll, balancé en fait sur une corserette sans jamais tomber dans le grotesque ou dans le sordide. Guillaume, pardon de vous faire mal, vous aurez 44 ans en avril prochain. Est-ce que cette idée-là, est-ce que je suis encore dans le coup, vous a quand même traversé l'esprit à un moment ?
Évidemment, sinon j'aurais pas écrit ce film.
C'est vrai bien de parler de ses faiblesses.
Non, mais c'est vrai.
Ou de ses fragilités.
Mais, là, j'y vais bien. Hein,
oui, franchement. Oui.
Mais non, mais c'est vrai que forcément, quand on se retrouve dans ce genre de situation, de cette interview que j'ai vraiment vécu, qui a été une sorte de catalyseur, quoi, qui m'a donné cette idée. Effectivement, à ce moment-là, on se pose la question, on se dit, mais est-ce que je suis vraiment comme ça? La première fois qu'on est dans la rue et que quelqu'un nous appelle monsieur, voilà, je pense qu'on s'en rappelle tous. La première fois qu'on a un mec qui a commencé à nous dire qu'on avait de l'arthrose, on a commencé à se poser des questions aussi. J'en parle dans le film du personnage qui à un moment a mal à une couille et qui se demande ce qu'il a et on lui dit que c'est peut-être la prostate. Il se dit, mais c'est pas possible, mais c'est pas 40 ans. Enfin, bah si, Monsieur Canet, ça peut arriver. Voilà, il y a tous ces phénomènes-là. C'est pour ça que je disais que ça ne s'adresse pas qu'aux comédiens.
Message reçu.
qu'aux comédiens. Mais voilà, c'était c'est, oui, bien sûr, j'y suis sensible aussi. Après, maintenant, je n'ai pas de vrai problème à l'idée de vieillir physiquement, du coup, en tout cas dans mon apparence. Mais par contre, de ressentir que mon corps vieillit et que c'est plus douloureux le matin de se lever et que tout ça, ça m'emmerde vraiment. Et voilà, mais c'est ça aussi qui m'amusait dans le film, c'était de parler aussi des hommes, parce qu'on parle beaucoup des femmes, de la vieillesse chez la femme, mais on en parle très peu chez l'homme. Alors que c'est un sujet sensible aussi, on voit des hommes qui se teignent les cheveux, se font des implants ou vont faire du sport à outrance. On n'a jamais vu autant de salles de sport fleurir de partout.
Incroyable.
De se bronzer, se blanchir les dents. Enfin voilà, il y a un truc de volonté de plus en plus, ce que je disais tout à l'heure, de rentrer dans une espèce de norme, quoi. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse aussi.
Guillaume Canet, vous n'épargnez ni le milieu du cinéma ni la presse dans votre film. Est-ce que ça veut dire aussi que durer dans ce métier, c'est faire le deuil de quelques illusions sur la grande famille du 7e art, si tant est que vous ayez eu cette perception d'une famille à un moment ou à un autre?
Alors, j'ai très sincèrement jamais eu vraiment l'impression d'être dans une famille, moi. J'ai l'impression de m'être créé ma propre famille avec les gens avec qui j'aime travailler et tout ça. Mais j'ai jamais eu le sentiment. Alors, c'est vrai qu'on a une reconnaissance du métier quand on reçoit, par exemple, un César, comme ça a été le cas pour Ne le dire à personne. J'étais très touché et très heureux de voir qu'il y avait une reconnaissance de la part de mes pères. Ouais. donc, ça m'a fait très plaisir. Mais après, je me suis rendu compte quand même que, enfin, moi, si par exemple, je passe un an et demi sans voir ma famille parce que je suis un peu dans la merde, en général, ma famille va m'appeler.
Oui.
Là, c'est pas trop été le cas. Non. Ouais. J'en ai fait deux périodes. J'ai pas eu trop d'appels. Donc.
Vous en avez souffert ?
Non, pas par rapport à la fameuse famille. J'en ai souffert par rapport à moi parce que j'avais l'impression de m'être énormément investi dans ce que j'avais fait et que j'essayais de comprendre ce qui n'avait pas fonctionné, en fait. Mais je pense qu'on apprend beaucoup. Ce qui est génial en même temps, c'est que ce que j'ai fait là, ce film-là, j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas vécu cette période compliquée. Donc c'est, je pense que c'est très important.
Elle a nourri autre chose.
Elle a nourri autre chose, ouais. On se relève plus fort, comme on dit.
Stéphane ?
Il y a une autre très bonne idée dans Rock'n'Roll, c'est d'offrir à vos proches ou à vos amis de jouer leur rôle. Donc Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Yvan Attal, Johnny Hallyday, Maxime Nucci qui a composé la BO, on en parlera.
Ça fait une belle brochette.
Oui, c'est plutôt pas mal. On va justement écouter un autre extrait.
Sauf l'urologue. Hein. L'urologue n'est pas
c'est
un urologue.
C'est pas le reste. C'est un rôle de composition. C'est un acteur. Vous allez, autre extrait, vous allez chez Johnny et Laetitia Hallyday pour tester votre rock'n'roll attitude. Et Johnny va pas vraiment arranger votre inquiétude en s'obstinant à ne pas vous appeler Guillaume.
Écoute, je vais te dire un truc, Jérôme. Il y a une expression américaine en anglais qui dit rock'n'roll is dead. Ce qui veut dire. Le rock'n'roll est mort. Mais c'est pas vrai. Le rock'n'roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Et tu sais, à part moi, il ne reste plus grand monde. Et de toute façon, il est trop tard pour toi maintenant.
Comment ça, trop tard?
Mais on est devenu trop vieux pour toutes ces conneries. C'est plus de notre âge, tout ça, non?
Bon, ouais, enfin, moi, je suis encore dans la quarantaine. Hein.
Ouais, bon, d'accord. Bah, tout ça à 10 ans près. Hein.
Alors, vous lui avez écrit du Johnny, en plus, hein, dans le texte, j'entends.
Oui. C'était. Mais j'étais très, très agréablement surpris qu'il accepte de jouer ça aussi rapidement comme ça, en me disant oui immédiatement, en étant... Il a même accepté sans lire le scénario, parce que je l'ai appelé en fait en lui racontant l'idée de la scène que j'avais. Avant d'écrire la scène, je me suis dit bon, autant au moins voir si ça l'intéresse. Il m'a dit ah oui, super, vas-y. Et je lui ai dit mais je vais y aller un petit peu, hein, parce que tu sais, tout le monde dans le film, on s'écorche un peu tous et tout ça. Et il m'a dit oui, vas-y, ça me fait marrer. Et puis j'ai envoyé la scène et puis j'avais pas de nouvelles. Donc je me suis dit, merde, ça se trouve...
On dit que souvent avec Johnny, il y a des silences, oui.
Et donc j'ai appelé Laetitia pour lui demander, mais est-ce que tu sais si Johnny a lu la scène? Ouais, il adore. Bon, voilà, et puis ça s'est fait comme ça, en fait. Et puis après, on s'est retrouvés, on a travaillé un peu la scène, on s'est... Enfin, à la lire plusieurs fois et tout ça, à la répéter. Et puis voilà, il n'y a jamais eu un moment où il m'a demandé... Quand je le fous quand même dans des toilettes en train de chanter les portes du pénitencier derrière les barreaux, faut quand même y aller, quoi. Donc...
N'en dites pas trop. Hein. Vous mettez également les producteurs de films en scène dans votre film. Je pense notamment à Alain Attal, à qui vous causez visiblement quelques soucis. De quelle manière est-ce que le métier, et notamment Pathé, hein, qui distribue votre film, vous a regardé travailler ou même pensé à ce projet quand même particulier?
Ils étaient tous très très excités par l'idée. Alain notamment, donc mon producteur, mais la première réaction qu'il a eue, c'est de me dire oui, c'est une très bonne idée, mais si tu vas loin.
Va jusqu'au bout.
Oui, c'était évidemment le but pour moi, c'était pas de me protéger, c'était pas de faire un truc un peu tiède, parce que sinon, c'est vrai que ça avait pas trop de sens, ou alors sinon il aurait mieux valu imaginer la vie d'un comédien pas connu. Mais tant que je parlais de moi, c'était important d'aller le plus loin possible, et je pense qu'il a été... heureux de voir que je me suis pas trop retenu, en fait.
On parle de la BO du film. Le film s'appelle Rock'n'Roll et dans cette BO, on entend notamment ceci.
Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier.
Quand je t'aime, de Demis Roussos. Est-ce que, alors on sait que le Guillaume Canet, on le voit tout le long du film, il tient beaucoup. Le vrai Guillaume Canet, ça fait partie de ses chansons cultes.
J'adore Demis Roussos. J'adore Demis Roussos, je suis désolé. Hein, c'est,
mais pourquoi voilà. Désolé, ben non, faut pas.
Mais c'est assez marrant. Dans ce film, j'ai essayé de montrer toutes les parts un peu cachées qu'on peut avoir de choses un peu, qu'on trouve un peu ringardes, donc on n'ose pas se montrer en pyjama, on n'ose pas se montrer. Et que moi, ça me faisait marrer de faire l'inverse. Et j'ai une culture musicale assez large, avec des choses que j'aime beaucoup, qui sont plus in et plus hype, comme on dit maintenant. Mais j'adore Demis Roussos et les Aphrodite Childs sont une période que j'adore. Ça me rappelle des trucs de mon enfance. Je crois qu'il a une voix géniale. Donc voilà, je suis là pour essayer de redorer le blason de Demis Roussos.
Vous l'avez rencontré?
J'y tiens. Non, je ne l'ai pas rencontré malheureusement. Et j'aurais adoré le rencontrer parce que j'avais vu une émission un jour chez Ruquier. Où il y avait, comme d'habitude, ces roquets qui étaient là pour dévorer les invités. Mmh. Et j'ai trouvé qu'il s'est pas défendu d'ailleurs. Il a juste réagi de manière tellement classe.
Avec élégance.
Avec élégance, que j'ai encore plus aimé l'homme. Donc force à Demis Roussos.
Force est restée à Demis Roussos. Alors vous qui nous écoutez, on va vous offrir des bandes originales du film Rock'n'Roll dans lesquelles vous entendrez par exemple Demis Roussos, mais aussi des places de cinéma pour aller découvrir le film en salle mercredi prochain. Et pour gagner, il faut bien entendu répondre à la question que vous pose Céan Stéphane.
Alors, puisque Guillaume dans le film est inquiet des années qui passent, dites-moi justement quel âge aura Guillaume Canet, le vrai, en avril prochain?
Oui, je sais.
Pas tout de suite, 40 ou 44?
Réponse au 32-10. On marque une pause et on poursuit notre discussion dans quelques instants avec Guillaume Canet. Et Enola Gay, tube de l'année 1980, c'est un des morceaux de la bande originale du film Rock'n'Roll, de et avec Guillaume Canet, notre invité ce matin jusqu'à 9h30. On va maintenant parler de ceux qui partagent l'affiche avec vous dans ce film. Stéphane, vous avez rencontré l'actrice principale.
Oui, une jeune femme qui trace son petit bout de chemin. Je crois savoir qu'elle, enfin me souvenir qu'elle a eu un César, un Golden Globe, un BAFTA, un Oscar, me semble-t-il, pour un film qui s'appelait La Môme en 2007. Elle a depuis tourné avec des petits jeunes qui montent.
On va pas faire des caisses
non plus. Woody Allen, c'est ça. Elle a sa carrière. Bon, Woody Allen, Jack Audiard, Steven Soderbergh, James Gray et quelques autres. Il s'agit évidemment de Marion Cotillard, qui joue Marion Cotillard dans Rock'n'Roll. Je lui ai demandé de me parler du sujet principal du film. Tiens, elle aussi. Ce temps qui passe et qui peut faire peur aux comédiens comme aux comédiennes.
Il y a des choses qui sont forcément assez troublantes quand on vit dans une société telle que la nôtre et qui considère quand même que prendre de l'âge, c'est quelque chose presque comme une maladie, quoi, de se dégrader physiquement. On voit ça comme une dégradation physique et pas comme une évolution logique, particulièrement, disons, pour un acteur et une actrice, encore plus particulièrement, où il y a une espèce de jugement qui peut être parfois terriblement cruel. C'est troublant parce que je vis dans cette société et que je vois les regards qui changent. Ouais, bah j'ai 41 ans, hein, donc j'ai de bons gènes, disons. Mais et surtout, je le vois sur d'autres actrices et la façon dont on peut parler de certaines actrices qui, par exemple, ne vont faire aucune retouche à leur physique. Et du coup, ouais, on entre dans une autre dimension qui est vraiment intéressante sur l'acceptation dans une société qui n'accepte pas de voir notamment ces actrices vieillir.
Guillaume Canet, Marion Cotillard est votre compagne à l'écran dans Rock'n'Roll, évidemment aussi dans la réalité. Lui offrir ce rôle, c'était aussi...
Ah oui.
oui, j'ai les informations.
Une info ce matin.
Est-ce que c'était aussi appuyé là où ça peut parfois faire mal? C'est vous la présenter comme une actrice obsédée par les rôles à performance ou à accent, engagée pour l'environnement et au point d'installer un potager au milieu de votre salon. Donc, ouais. Je vous avoue que je me suis senti solidaire.
oui, il y avait une envie effectivement de les gratiner un petit peu elle aussi. C'est-à-dire qu'il n'était pas question qu'elle soit juste spectatrice en fait de ma déchéance et que si je foutais en l'air ma carrière, il fallait mieux qu'on soit deux quand même. Non, mais plus sérieusement, c'était le but, c'était que vraiment tout le monde s'amuse avec cette autodérision et que c'est vrai que Marion est quelqu'un qui s'investit énormément dans ses personnages, que quand elle les prépare, ça m'amuse des fois parce que j'ai eu affaire à quelques petits spectacles à la maison et que ça, voilà, elle s'entraîne quoi, elle travaille, elle prépare à la maison.
Donc de temps à autre, vous lui dites, tu pourrais peut-être jouer autre chose que des dingues, enfin je sais pas, mais
oui, c'est ce que je lui dis dans le film. Je lui dis, j'en ai plein les couilles des rôles à Oscar parce que c'est vrai que voilà, j'ai quand même retrouvé un jour en train de jouer à la petite voiture en faisant parce qu'il fallait qu'elle s'entraîne pour son anglais avec sa coach pour travailler les airs et elle faisait des avec des petites voitures. Donc j'ai demandé quand même s'ils avaient vraiment besoin d'être à quatre pattes dans le salon avec les petites voitures majorettes ou est-ce qu'ils pouvaient le faire
normalement. Sincèrement, votre agacement était réel?
Non, c'est pas...
Vous disiez ça va trop loin quand même.
C'est
ou
pas,
j'ai envie
c'est
de...
pas un agacement, c'est une manière aussi de me moquer d'elle.
D'accord.
C'est pas un agacement au point de...
Sauf que c'est...
Sinon je me serais barré.
Oui, sinon ça occupe six mois de sa vie quand même, un rôle comme ça, j'imagine.
Oui, c'est pour ça que, si je peux à un moment, moi, la gauler sur un film un peu plus drôle et où il y a des choses un peu... Remarque, c'est aussi dit, je dis ça, mais je me suis tapé du Québécois pendant des mois. Donc.
Alors, c'est quand même la première fois que vous abordez publiquement un sujet que vous gardez jalousement secret tous les deux depuis le début de votre histoire, votre vie privée. Où commence la fiction? Où s'arrête la réalité et vice-versa? Écoutez justement Marion.
Les curseurs sont juste un petit peu plus poussés parce qu'on est vraiment dans une dimension de farce et de comédie. Et plus on avance dans le film, plus on va vers de la fiction et... À part dans les sentiments qui relient les personnages de ce film, qui sont réels, parce que c'est peut-être la chose la plus intime qu'on raconte dans ce film et qu'on livre, alors qu'on a plutôt toujours été très discret sur nos vies, mais c'est l'amour qu'il y a entre nous. Et donc dans la partie totalement fiction du film, cet amour-là, il reste vraiment réel.
Alors, je dois quand même aborder un sujet qui fâche, Guillaume. Le Canet du film, une fois rentré chez lui, porte, je ne sais même pas si c'est un jogging ou un pyjama, qui n'est pas très, très avantageux. Et surtout, il dort avec un accessoire sur le papier, pas très rock'n'roll. Je veux parler d'une bouillotte. Donc là aussi, j'ai voulu avoir l'avis de Marion. Est-ce que ça, c'est raccord avec votre réalité ?
Bonne question.
La bouillotte, ouais, check. C'est complètement... Ça fait complètement partie de sa vie. Et de la nôtre, d'ailleurs. C'est très, très bien, la bouillotte. Je ne vais pas vous faire un exposé sur la bouillotte, mais chacun devrait avoir une bouillotte dans son placard.
Alors, ça, c'est vrai, donc.
Non, mais alors, je vais vous expliquer.
Oui, expliquez-nous la bouillotte.
Je vais vous expliquer. J'ai eu pour de vrai une paralysie faciale il y a quelques années, qu'on voit dans le film, mais j'en ai eu une vraie pendant la préparation des petits mouchoirs. En fait, ça s'appelle une paralysie faciale à frigorée. En fait, vous avez le corps qui se refroidit à un endroit, et souvent, donc, quand ça m'est arrivé, j'avais le visage complètement, et ça venait de trucs de la clim et tout ça. En fait, je suis à ce moment absolument, je veux pas dire allergique, parce qu'on n'est pas allergique à la clim, mais j'ai un problème avec la clim. Et donc, pendant 2 mois, j'étais paralysé. Et j'ai eu cette phobie, en fait. Et j'ai eu la chance de rencontrer une acupunctrice extraordinaire. Je vais lui faire de la pub, elle s'appelle Madame Plugnan, Anne Plugnan. Et elle m'a remis sur pied. Avec Emmanuel Rassi, en fait, qui était un chirurgien de la face. Et en fait, elle m'a donné ce petit truc de grand-mère qui est, en fait, de se servir de cette source de chaleur qui est la bouillotte. Je n'y crois pas ce que je suis en train de faire. Et d'expliquer, en fait, les points d'acupuncture du corps, en fait, qui permettent, quand on est très fatigué, de relancer l'énergie du corps et de permettre, quand on commence à être malade, d'éviter de tomber malade. Voilà. Donc, il y a des points sur le ventre.
Vous la mettez où, votre bouillotte excusez-moi, on va jusqu'au bout.
Eh ben, sur les reins, parce que sur les reins, par exemple, le matin, vous mettez ça sur les reins, vous allez voir, vous n'avez plus besoin de prendre de la vitamine. Ça vous met un coup de boost pas possible pour toute la journée. Avant de...
Allez, il faut aller
avant
jusqu'au bout.
Coucher,
moi, je suis hypochondriaque.
Avant,
donc,
de se coucher, avant de se coucher sur le ventre, sous le nombril, et vous allez voir que en fait, d'abord, vous dormez hyper bien. Voilà. Mais ça, c'est quand il n'y a pas de petit câlin. Ah, s'il y a un petit câlin, on évite la bouillotte. Ou alors, on la fait après.
D'accord.
On ne rentre pas dans le lit avec la bouillotte. Ouais. Parce qu'en général, ce n'est pas bon pour
c'est
le couple.
C'est un peu
quoi.
Tue l'amour.
Voilà,
non, mais les bons conseils du bon docteur Canet, c'est bien très
voilà.
important.
Ouais.
Guillaume Canet, on est avec vous.
Voilà, et là, si vous me posez la question de savoir si je suis rock, vous avez la réponse.
On est ensemble jusqu'à 9h30 avant la sortie mercredi prochain de votre nouveau film Rock'n'Roll. On marque une nouvelle pause et dans un instant, Charlotte Arrigoni nous donnera les dernières infos culture dans ses express. A tout de suite, excellente journée à tous, avec ou sans bouillotte. De la musique, il va aussi en être question dans les express de Charlotte Arrigoni, que je salue. Bonjour Charlotte.
Les express LVT.
Jingle, s'il vous plaît. Alors là, allez-y.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Bonjour Charlotte.
Pas mal, regardez. Bah, c'est Guillaume Canet qui vient de vous
mais
dire
oui,
bonjour Charlotte.
Mais oui, c'est pour ça que je suis sans voix en fait.
Voilà.
Je m'en vais.
Musique. Musique et rock'n'roll d'ailleurs, avec le retour de Texas.
Le nouvel album du groupe écossais est attendu pour le 21 avril prochain. Il s'appellera Jump On Board. Il y aura 10 titres et le premier single a été dévoilé ce matin. Ça s'appelle Let's Work It Out, extrait. Du nouvel album de Texas, attendu donc au printemps prochain.
Alors, nous vous parlions hier du très gros démarrage de Red Dingue, hein, le dernier film de et avec Danny Boone. 1,5 million d'entrées en une semaine. Charlotte, l'acteur réalisateur, ne compte pas se reposer sur ses lauriers.
Danny Boone est actuellement à Los Angeles où il termine l'écriture de son prochain film qu'il compte bien tourner dès l'été prochain. Stéphane, vous l'avez joint ce matin pour
oui,
RTL.
Mais oui.
Ça s'appelle Une jolie ch'tite famille. C'est pas la suite des ch'tites du tout, mais c'est un film que je veux tourner dans le Nord. J'ai très, très envie de retourner dans ma région. Ça se passe c'est entre le Nord et Paris. Et c'est l'histoire d'un designer que je joue, qui est devenu très bobo parisien et qui cache ses origines prolo-ch'ti, ouais, et qui vont lui revenir en boomerang. Avec les 80 ans de sa mère, qui sera jouée par Pauline Renaud. Toute sa famille descend à Paris pour fêter les 80 ans de la mère. C'est un projet que j'ai écrit en 2011, que j'ai mis de côté, que j'ai réécrit en 2013-2014, que j'ai remis de côté, sur lequel j'ai retravaillé depuis l'année dernière. Mais je suis très content, ouais. Ça se passe bien.
Alors Guillaume, vous avez joué avec Danny Boone dans Joyeux Noël en 2005 et à une semaine de la sortie de votre film, connaissant votre anxiété naturelle, il a tenu à vous adresser un message.
Je suis rassuré pour lui. Moi, j'ai vu son film que j'aime beaucoup. C'est très drôle. La parodie qu'il fait du métier est très, très, très réussie. Mais oui, il est anxieux. Ouais. On se connaît depuis très longtemps, Guillaume, et on s'aime beaucoup. C'est-à-dire que la meilleure réponse à l'anxiété, c'est le travail. Je pense que c'est ce qu'a compris Guillaume, c'est ce qu'il fait. Après, je ne sais pas s'il est angoissé par rapport aux entrées du film. Moi, sincèrement, quand les gens me posent la question en me disant « Combien croyez-vous que votre film va faire comme entrée ?» Je lui dis « Écoutez, ce n'est pas ça qui est le principal. Quoi qu'il arrive, un film fait toujours les entrées qu'il mérite. Bah, » ça va bien se passer, hein, mon capitaine.
Oui, mon capitaine, parce que...
Non, c'est copain.
Ben voilà.
Moi, j'adore Danny. Je suis très, très heureux des entrées de son film et de ce qui se passe, parce qu'il le mérite. C'est quelqu'un qui va toujours vers les gens, qui est très généreux. Et c'est quelqu'un de bien. Vraiment, c'est quelqu'un de bien qui mérite tout ce qu'il a.
On poursuit nos rendez-vous tout de suite avec l'équipe de The Voice, hein, qui entre au musée Grévin.
Oui, pour la première fois, ce n'est pas une personnalité qui entre au musée de cire parisien, mais carrément un studio télé. Depuis hier, les visiteurs peuvent découvrir la salle The Voice et se prendre en photo avec les coachs Mika, Matt Pokora ou encore Jennifer, mais aussi avec Nikos, le présentateur du télécrochet sur TF1. C'est ludique. Écoutez les précisions pour RTL de Fabien Manuel, le concepteur de ce nouvel espace à Grévin.
On a une expérience complète autour du plateau de The Voice pour que les gens aient l'impression de vivre leur propre expérience The Voice. Ils peuvent appuyer pour être comme des coachs sur les sièges, les retourner pour leurs photos, passer sur scène et imaginer vous lancer un mini show comme si vous étiez la voix du show. Et ensuite, vous avez tout le côté backstage où vous pouvez vous enregistrer dans la voice room, repartir avec votre vidéo souvenir. Donc oui, c'est une expérience complète. Je suis très fier d'avoir signé cet espace et d'avoir travaillé avec les équipes de Shine et de Grévin, bien sûr.
Chanteur qui a participé à The Voice 3 face à Kenji Girac. Il a donné un mini-concert pour l'ouverture de cet espace au musée Grévin. Un mot d'Instagram peut-être, Guillaume Canet. On vous a vu, on en a parlé ici dans Laissez-vous tenter. Ouais. Vous vous êtes livré ces derniers jours avec Marion à un concours de photos pas très glamour. On vous a notamment vu en pyjama avec votre bouillotte.
Ouais,
on vous a vu aussi avec des oreilles de mini, en slip, pantalon baissé devant un box de cheval, ma préférée. Alors... C'est qui le plus rock'n'roll des deux? Est-ce que c'est elle qui a gagné? C'est vous? Et est-ce que surtout vous avez d'autres photos dossiers de Marion?
Alors, bah là, elle est enceinte de 7 mois, donc vous imaginez, je commence à en avoir des pas mal des dossiers où elle s'endort partout. C'était parti de là, en fait. C'était pas du tout prévu. Plein de gens pensaient que c'était un truc de promo énorme. En fait, c'est vraiment parti d'une connerie où elle dormait dans le train et on l'a prise en photo avec mon co-scénariste Rodolphe.
Ah, c'était
Loga.
Pas une campagne de pub?
Non, pas du tout. Au départ, c'était vraiment parti d'un truc où on voulait se foutre d'elle parce que c'était la première date et que c'était, on trouvait pas ça très rock'n'roll pour le coup de dormir à 16h30 sur une tournée. Et du coup, on l'a prise en photo, elle s'est réveillée, elle m'a envoyé cette photo de la bouillotte, donc ça m'a un peu agacé, donc j'ai répondu. Et puis voilà, et puis à bout d'un moment, c'est devenu effectivement un truc de promo énorme, et j'en étais très heureux, je l'assume totalement, parce que ça sert tellement au propos pour le coup du film. Mais là, on s'est un peu calmé parce que les dossiers se font de plus en plus rares et que j'ai pas envie non plus de l'accabler. Et puis là, pour le coup, ça va devenir un truc fake. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est des vraies photos qu'on avait, qui datent de certaines d'un an, voire deux ans. Mais là, ça voudrait dire mettre en scène. Alors, on l'a fait dans une pharmacie où j'ai été acheter des geôles et je me suis fait filmer par mon co-scénariste. On a fait un petit film comme ça pour rigoler. Mais bon, voilà, après, on s'est dit que c'était mieux quand c'était quelque chose de pas préparer.
En tout cas, ça a été une réussite parce que tout le monde, alors vraiment tout le monde en parle. On se retrouve dans quelques instants avec Guillaume Canet pour se dire au revoir et vous saurez si vous avez gagné des places pour découvrir son film et les bandes originales du même film. Ce sera rock'n'roll.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Dites-moi, Guillaume Canet, en avril prochain. Ah oui, épidémie, c'est revenu, c'est formidable. Voilà. Vous aurez 40 ou 44 ans?
J'aurai 44 ans.
Voilà.
Et on peut précommander des bouillottes à offrir dès maintenant.
Ah oui, vous allez voir,
on a lancé un truc ce matin.
Je vais faire un magasin de bouillottes après.
Vous verrez, c'est pas très grave d'avoir 44 ans. On vous souhaite beaucoup de succès pour la sortie de ce film.
Merci de nous avoir accompagnés
pour le découvrir ce matin. Et vous qui nous avez appelés, bien entendu, vous avez gagné au 3210 et des bandes originales et des places pour aller voir Rock'n'Roll de Guillaume Canet.